À la une dans le monde, pour terminer en quelque sorte cette matinale spéciale Yom HaShoah, on va parler à présent de la définition du nazisme, de la montée de ce même nazisme dans l'entre-deux-guerres, ainsi que des parallèles que l'on peut faire avec la situation que nous vivons aujourd'hui, et ce, grâce à notre invité, Johan Chapoutot. Il est historien, spécialiste du nazisme, auteur de nombreux livres sur ce même sujet qu'est le nazisme, dont le dernier, paru en février dernier, intitulé « Les irresponsables de point qui a porté Hitler au pouvoir ?» Point d'interrogation. Lucie, ce matin, eh bien, en ce jour de Yom HaShoah, vous parlez de nazisme avec votre invité.
Bonjour, Johan Chapoutot.
Bonjour, madame.
Alors, vous êtes historien spécialiste du nazisme. Didier a rappelé que vous êtes aussi l'auteur du livre Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, qui est paru donc en février dernier aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale Yom HaShoah.
Merci à vous pour votre invitation.
Alors, tout d'abord, on a un peu l'impression aujourd'hui que ce terme nazi, il est employé un peu à tort et à travers. On finit par en oublier le sens même en cette journée du souvenir. Est-ce que vous pouvez nous en donner la définition usuelle ?
Oui, à tort et à travers, c'est le mot, effectivement, vous avez raison, puisque de fait, il y a déjà un peu les termes nazis dans la polémique et l'affrontement politique qui fait fi un peu des définitions. Et puis, il y a aussi un usage apologétique ou référentiel du nazisme, puisque l'on voit, effectivement, des maîtres du monde faire des saluts nazis en mondiovision à Washington. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que le Troisième Reich et le nazisme restent, pour les extrêmes droites contemporaines, une référence indépassable. Alors, si l'on veut définir ce qu'est le nazisme, il faut revenir évidemment à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et bien comprendre que le nazisme, c'est une des familles de la contre-révolution européenne, c'est-à-dire une réaction à une conception nouvelle de la cité politique, de l'humanité, qui serait fondée sur le libre choix de l'individu, sur la liberté de l'individu, ce qu'on appelait la conception française de la nation et de la société. Et par opposition à ça, les différentes contre-révolutions ont défini des conceptions déterministes de l'appartenance à une nation, fondée non pas sur la liberté, le consentement et la volonté, mais fondée sur la détermination, alors dans un premier temps théologique. C'était le cas à la fin du XVIIIe siècle, puis à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sur le fondement d'un déterminisme biologique. Et les nazis s'intègrent dans cette famille-là en reprenant des éléments des extrêmes droites contre-révolutionnaires européennes et occidentales, en recodant tout cela par la biologie raciste, et notamment on le voit très bien pour l'antisémitisme qui est recodé dans le sens du déterminisme biologique, hein, et qui abandonne un petit peu sa valence théologique traditionnelle, le tout étant évidemment précipité dans un chaudron particulier qui est celui des crises perpétuelles que vivent l'Allemagne et les Allemands depuis 1871 jusqu'à 1929-1930.
Alors oui, à l'école, on apprend que, en gros, en simplifiant un peu, en vulgarisant un peu, que le terreau de cette montée du nazisme dans l'entre-deux-guerres, c'est la conjonction d'une crise économique couplée à une crise identitaire. Alors aujourd'hui, vous alertiez vous-même dans certains médias que certains parallèles sont à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on doit craindre que l'histoire se répète ?
Alors, non, parce que précisément, quand on pose les choses comme ça, on pose mal les questions. L'idée d'un retour des années 30 vise à accréditer l'idée qu'il y aurait une fatalité, si vous voulez, comme il y a un retour des saisons, un retour des cycles cosmiques. Par contre, il y a des politiques menées par des acteurs sociaux qui ont des intérêts bien compris et qui peuvent, à un certain moment, faire le pari de l'alliance avec l'extrême droite. Et cette extrême droite, dans les années 30, en Allemagne, elle s'appelait le nazisme. Donc ça a été un pari froid qui a procédé d'une volonté de se maintenir au pouvoir et de garder le pouvoir de la part de certaines élites patrimoniales traditionnelles. Il est bien important de se rappeler qu'il n'y a pas de déterminisme mécaniciste, c'est-à-dire que la crise économique et sociale, aussi violente ait-elle été en Allemagne à l'époque, n'a pas mené mécaniquement les nazis au pouvoir, parce que de fait, le vote des chômeurs et le vote des ouvriers est un vote anti-nazi, très largement. Il y a un vote nazi qui est un vote de classe moyenne, de classe postérante, de classe patrimoniale, mais il n'y a pas de poussée électorale nazie, et c'est bien montré d'ailleurs par les résultats, dans la mesure où, à l'automne 1932, les nazis s'effondrent dans les urnes, et c'est précisément à ce moment-là que la droite décide de faire une alliance avec l'extrême droite. C'est très important de le voir aussi. Les nazis, du point de vue de leur rapport aux juifs, alors évidemment l'antisémitisme est absolument fondamental chez eux, hein, le nazisme est un complotisme, c'est un biologisme, c'est un bellicisme, et tout ça est gagé sur leur antisémitisme, et bien ils se sont rendus compte que l'antisémitisme était peu porteur électoralement. Et comme ce sont des marketeurs, comme ils ont une conception mercatique de la politique, ils estiment que insister sur l'antisémitisme ne leur fait pas gagner des parts de marché. Ils raisonnent vraiment dans ces termes-là, qui sont des termes absolument odieux. Ils se rendent compte que insister sur l'antisémitisme flatte une base radicalisée mais qui leur est déjà acquise, mais ne leur permet pas de mordre sur de nouveaux électorats. C'est pour ça qu'ils mettent en sourdine l'antisémitisme à partir de 29-30, pour ensuite évidemment le réinvestir quand ils seront au pouvoir, mais ils sont suffisamment habiles pour jouer sur les différentes camps sensibles de l'électorat, et en dépit de cela, ça ne marche pas, puisqu'encore une fois, il y a un recul très net des nazis à l'automne 1932.
Aujourd'hui, il y a tout de même des dérives, surtout sur le sol européen, par exemple, qui connaît une hausse de l'antisémitisme sans précédent, alors même que ce génocide s'est déroulé sur son sol et que donc cette histoire nous appartient à tous. Et c'est-à-dire que les nouvelles générations, elles oublient, elles sont pas assez bien éduquées, elles sont pas assez informées sur cette question-là.
Alors les efforts d'éducation, on les fait, j'en parle pour un terrain que je connais un petit peu mieux, qui est celui de la France et celui de l'Allemagne. J'ai participé à des centaines de conférences, de formations, des professeurs, des maîtres dans le cadre des conférences du Mémorial de la Shoah en France. Les programmes intègrent évidemment ces dimensions-là. Ce qui est peut-être problématique, c'est moins en population générale, si vous voulez, je crois que c'est ça un peu l'enseignement d'histoire. Ce n'est pas la population allemande qui a décidé par antisémitisme, par bellicisme, par violence de porter les nazis au pouvoir. Il y a vraiment eu une décision de certaines élites patrimoniales qui, épouvantées par la montée de la gauche et la perspective d'une arrivée au pouvoir légale ou non de la gauche, ont décidé que manière la plus sensée, la plus rationnelle, la plus raisonnable pour eux de rester au pouvoir, c'était de faire alliance avec l'extrême droite. Ils étaient bien conscients que l'extrême droite nazie était violente, mais ils se rassuraient en se disant que cette violence-là, la violence de l'extrême droite, frappait des ennemis communs, les juifs, les communistes, les socialistes, les syndicalistes, et qu'au fond, eux-mêmes ne seraient toujours épargnés du fait de leur naissance, de leur réseau, de leur nom, de leur pouvoir par cette violence nazie, ce qui n'a pas été tout à fait le cas d'ailleurs.
Alors ma dernière question, Joanne Chapoteau, aujourd'hui la communauté juive, ses amis commémorent Yom HaShoah, cette fête du souvenir justement pour se rappeler de ces 6 millions de juifs exterminés pendant cette période. Est-ce que vous pensez que cette cérémonie, elle gagnerait à être universalisée afin d'accomplir notre devoir de mémoire en tant que société ?
Il y aurait sans doute une réflexion, au-delà d'une réflexion mémorielle, une réflexion historienne à mener au niveau des instances internationales sur la commémoration internationale de la Shoah. Il existe une date qui a été érigée par l'UNESCO et par l'ONU en célébration internationale, qui est le 27 janvier, cette date à laquelle les troupes soviétiques sont entrées dans le camp en voie d'abandon, dans le complexe concentrationnaire et exterminateur d'Auschwitz-Birkenau. Cette date est intéressante, mais elle pose sans doute problème aussi, puisqu'il s'agit d'un terrain particulier, il s'agit d'un type de camp particulier. Il serait peut-être intéressant, au-delà du mémorial, de mener une réflexion historienne sur ce que l'on veut commémorer et à quelle date, pour effectivement synchroniser les pendules internationales et faire en sorte de ne pas laisser les Juifs seuls face à leur deuil et face à leur douleur. La question de la Shoah, c'est une question universelle, c'est une question humaine qui touche chaque être humain. Ce n'est pas une question de juif ou de non-juif, c'est une question qui appartient à l'humanité, et c'est bien pour cela que, à partir de 1944-45, on a défini ce nouveau type de crime qui est le crime contre l'humanité. Et donc c'est un jour qui appartient à l'humanité, et il y a sans doute une réflexion de calendrier à mener, mais fondée sur des arguments historiens pour savoir, encore une fois, précisément ce que l'on veut commémorer et pourquoi.
Eh bien, je vous remercie, Joanne Chapoutot, pour cet éclairage. J'espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous, peut-être à une prochaine occasion sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes historien, donc spécialiste du nazisme, auteur de ce livre « Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir ?» qui est paru en février dernier, donc aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt, merci à vous.